merci à Emmanuel. Nous allons discuter de tout ça très rapidement. Mais au préalable, je lui passe la parole. Je te passe la parole. Donc, tu es analyste à Paris et enseignante au Collège Clinique, sous le titre alors Le privé est politique.
Alors, vous entendez là, hein, je m'approche. Alors, pour ceux qui étaient là il y a quelques séances, ce titre qui est peut-être entendu entre mots d'ordre et orientation éthique utopique, ce titre donc vient directement de la discussion qu'on a eue il y a quelques séances où, à propos du séminaire, dans le séminaire école. Alors, comme ceux qui étaient présents n'avaient pas l'air d'avoir tellement cette déclaration en tête, il se trouve que pendant les vacances, donc c'est très pendant les vacances de Noël, hein, je suis tombée complètement par hasard là-dessus. Je garde le postage, je vous assure que je suis tombée par hasard dessus. Donc ça vous prouve que quand même c'est encore au moins vendu en tant que carte postale, si ce n'est pas devenu autre chose. Voilà. Vous ne voyez pas voilà. J'aurais bien acheté plusieurs pour distribuer. Ma générosité ne va pas plus. Voilà, alors c'est cette discussion qui m'a un peu inspiré le travail d'aujourd'hui. Et je commente parce que sinon ça paraît très sec. Et aussi quand Natacha m'a demandé si je voulais bien participer à ce séminaire, en fait je n'ai entendu que la deuxième phrase, c'est-à-dire qu'elle en fait une sous-phrase, c'est-à-dire de sa position subjective, le sujet est toujours responsable. Je n'avais pas vu le titre, l'éthique de la psychanalyse. C'est embêtant. Et j'ai tout de suite pensé à deux situations. J'ai pensé à l'envers de ce. Enfin, pas comme je vais vous les présenter, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans ce travail. Je commence. Alors nous sommes, écrit Freud, responsables jusqu'au contenu de nos rêves. Depuis la psychanalyse, qui ne prescrit aucun modèle de la morale ordinaire, Anne l'a rappelé en citant Freud, la psychanalyse en conduit celui qui se prête à l'acte de dire à passer de la plainte qui fait consister l'autre à prendre la responsabilité de la dimension de jouissance nouée à son existence. Cependant, ce trajet éthique est-il possible hors analyse? Le discours analytique, dans son extension, est-il suffisamment porteur de son éthique, celle qui conduit le sujet dans la cure à considérer ses actes pour en prendre la mesure de distance quant à son désir, en tout cas quant à ce qu'il peut en savoir compte tenu de l'étendue de l'impensable? Responsable de sa position subjective, chacun l'est dès qu'il y a sujet, quels que soient les choix qu'il opère, conformément ou non aux valeurs de sa communauté. Mais être responsable en fonction de l'éthique de la psychanalyse, qui conduit à s'accepter dans sa division avec ce qu'il y a de plus autre en soi, de plus étrangement énigmatique, la jouissance, entre parenthèses, la jouissance vraiment du réel, point d'interrogation. C'est une autre affaire. Et d'ailleurs, que peut-on en savoir hors analyse, voire hors témoignage de passe? J'ai un peu l'idée que c'est dans le témoignage de passe qu'on peut en savoir quelque chose. Qui plus est, pour l'autre en tout cas, qui plus est, le sujet du discours analytique, qui a été défini par Lacan, n'est pas le moi, ni le je, ni le sujet de la conscience, ni le sujet du droit. Il ne s'appréhende que dans les effets des paroles adressées dans le transfert à un analyste, il est donc supposé. Alors je vais uniquement parler de supposition. Je suis coupable, mais pas responsable, me déclare ce patient. Jusque-là, il est freudien. Déploiement des affects ambivalents entre une mère un peu trop séductrice selon son goût, affection affectée envers un père un peu trop complaisant, toujours selon son goût, complicité intéressée envers les prétendants de sa mère, qu'il utilise comme un messager plus ou moins informé. Il souffre de ce sentiment de culpabilité qui l'a mené vers l'analyse, comme beaucoup d'autres. Coupable, forcément coupable, ça vous rappelle sûrement quelqu'un, Marguerite Duras, comme Freud l'a démontré pour tout un chacun, attribuant cet affect indésirable au désir précoce, meurtrier et incestueux. Cette faute originaire alimente la satisfaction secrète du symptôme, sans doute ce que Freud reconnaissait dans les bénéfices secondaires. Il est d'ailleurs devenu quasi banal, courant en tout cas d'entendre l'éventuel futur analysant déclarer d'emblée sa culpabilité, le discours courant de la psychologie dite analytique ayant contribué à semer la confusion entre la responsabilité de jouissance du sujet et l'aléatoire de ce qui lui arrive dans la réalité. Alors, je sais bien que je suis pour quelque chose, ce n'est pas un hasard ce qui m'arrive, ce qui d'ailleurs n'est pas sans contenir une vérité, viennent le plus souvent en déclaration pour se dédouaner et avancer masqué. Et ce qui est masqué derrière ces déclarations auto-accusatrices, ce pourrait tout aussi bien être le fantasme de maîtriser le réel, de ne rien vouloir en savoir. Alors, devenir un peu plus lacanien, au sens d'un dire qui endosse son acte, ce serait accepter la castration et adhérer aux modalités propres de sa malédiction consentie, c'est un terme de Lacan, hein, c'est-à-dire en fin de fin, au non-rapport sexuel. À cet endroit, Lacan convoque la responsabilité qu'il dit sexuelle. Alors certes, il parle de l'acte de l'analyste, mais moi j'élargis, si on peut dire, je me suis permis, d'attribuer à tout sujet cette responsabilité sexuelle selon son rapport à la castration. Tout sujet a une responsabilité sexuelle. En effet, il m'intéresse ici, dans ce séminaire nommé Champ lacanien, d'interroger la légitimité d'étendre la question à l'ensemble des gestes au sens théâtral, soit aussi dans la tragédie de la vie quotidienne. En effet, l'extension de Lacan, entre autres, à la théorie psychanalytique est dans le fait de considérer la dimension de jouissance dans tous les actes de la vie. Je me suis appuyée pour me justifier sur une question d'argument, l'hypothèse de l'inconscient est pour tous, et pour tous, l'inconscient, corps et âme, alors j'explique corps et âme pour dire selon le langage commun ce qui est indicible. Âme, évidemment, c'est corps, je fais allusion à l'inconscient corps, et âme, l'inconscient chaîne. Ça va, évidemment, il faut que j'explique quand même. Donc, selon le langage commun, ce qui est indicible travaille à temps plein. Alors, est-il possible pour chacun de faire des choix de vie orientés par cette éthique? Alors, ce fut un pari qui m'est donc revenu lors d'une récente soirée du séminaire école à partir de cette affirmation de Lacan, l'inconscience et la politique. Alors, grâce sans doute à la proximité des thèmes des séminaires que Saul Apparisseau a également évoqué à la dernière séance, en rajoutant même le thème des collèges cliniques sur la clinique des différences sexuelles. En effet, ils se rangent tous deux, peut-être tous trois en effet, sous l'axe de l'éthique de la psychanalyse. Il y aurait donc une proximité entre la responsabilité de sa position subjective et l'inconscient politique. Et m'est alors revenue cette déclaration des années 68, le privé est politique. Certes, inspirée par l'analyse des déterminants socioculturels relevés entre autres par Bourdieu, mais ce n'était pas sans la psychanalyse, lacanienne en l'occurrence. L'idée était donc de les subvertir dans la maison des corps, pour reprendre la belle expression de Frédéric Pellion, pour réguler les rapports sociaux, et inversement, de connecter l'engagement politique avec les rapports privés. Qu'est-ce que cela voudrait dire, sinon que chacun est responsable de ses modes de jouissance et que se faire une conduite ne s'arrête pas à la porte de sa demeure? L'utopie, certes, c'en était une, a fait long feu. Cette époque, avec ceux qui lui donnaient leur voix, était traversée par le discours analytique, et je fais l'hypothèse qu'il y a un lien entre l'inconscient, c'est la politique, énoncée par Lacan en mai 67, et le privé et politique, qui apparaît en mai 68. D'ailleurs, Lacan déclare dans la séance du 20 novembre 68, du séminaire d'un autre à l'autre, je cite, « Ces vérités qui s'étalèrent sur les murs, personne ne remarque qu'elles sont aussi dans mon discours. » Donc le mode d'existence de chacun, sa façon de vivre les liens intimes, autrement dit de faire avec son fantasme et sa jouissance, d'une manière qui ne soit trop gouvernée ni par la censure, ni par le refoulement, ont une dimension politique. Politique au sens étymologie, c'est un peu le sens qu'a donné Frédéric à la dernière séance, le politique à la politique. Techné, l'art, science de la police-cité, science de la cité, des affaires de la cité. Il s'agirait de ne pas céder sur son éthique, qui se manifeste entre autres par le désir, mais en effet qu'un désir. Il faut en avoir une petite idée parce qu'il ne s'agit pas du désir de fraise comme dans le rêve de la petite Anna, mais de ce qui pousse le plein de fraises, trop de fraises. Donc il ne s'agit pas donc de l'accomplir à tout prix, c'est contre-productif quant à l'éthique, mais de pouvoir en répondre. D'où la question qui était d'ailleurs sans réponse possible, mais cependant récurrente de ces années-là, d'où tu parles ? Un drôle d'exemple m'est venu. Je vous le livre. J'y ai pensé dès que Natacha m'a téléphoné, mais j'y ai pensé à l'envers de ce que j'ai découvert. Peut-être j'ai... voir si j'ai tort dans un sens ou dans l'autre. Donc le 16 novembre 1980, soit quelques années après les événements, comme l'on nomme les années 68, un des référents idéologiques du mouvement, Louis Althusser, éclate et tremble sa compagne, Hélène Rickman. 5 ans plus tard, il écrit une autobiographie où il mêle souvenirs d'enfance, fragments d'analyse. Il a été un analyste toute sa vie, avec au moins 2 analystes différents. On connaît le second beaucoup plus que le premier, il en a au moins 2. Donc il mêle souvenirs d'enfance, fragments d'analyse, hypothèses d'explication du meurtre, personnelles ou partagées avec quelques interlocuteurs, ceux de ses proches qui resteront à ses côtés toutes ces années d'enfermement alternatif en psychiatrie. Son objectif déclaré est de sortir d'un statut de coupable irresponsable pour assumer celui de responsable de sa réalité dont ses hallucinations font partie, comme il a toujours été responsable de ses positions politiques et philosophiques. Se faire considérer comme responsable, pas seulement aux yeux de la loi, mais aux siens, essentiellement aux siens, et ce qui permettra à cet homme si sombre de pouvoir, les quelques dernières années de sa vie, parler et écrire à nouveau, et même de trouver, enfin je cite une des dernières lignes de son livre, que, de point, la vie, malgré ses drames, peut être belle. Comme Freud écrit à propos des effets thérapeutiques d'une analyse, de pouvoir travailler et aimer. Je le cite à nouveau, j'ai repris toutes mes affaires en main, mes amitiés et mes affections. Je crois avoir appris ce qu'est aimer. Je n'avais retenu de ma lecture à l'époque, ainsi que de celle des nombreux commentaires qui en furent faits, que l'appel à une reconnaissance juridique avec le refus du non-lieu. J'ai été surprise, très surprise, de lire aujourd'hui tout à fait différemment ce témoignage, qui dans le fond démontre l'écart entre le sujet du droit et le sujet effet de langage, qui est celui défini par la psychanalyse. Ce qui balaye au passage l'illusion largement partagée, je crois en tout cas, qu'une condamnation serait salvatrice. Il me semble que ce pourrait être cet écart que Lacan souligne dans le séminaire 3 à propos du crime dit immotivé. L'expert, dit-il, croit qu'il suffit de dire que le type est pleinement responsable pour trancher la chose. Or, la sanction juridique ne sait rien de la position subjective. Et c'est la confusion, voilà le deuxième exemple qui m'était venu en tête, c'est la confusion qui anime Pierre Legendre dans son engagement pour faire reconnaître la responsabilité du caporal Lortie, meurtrier qu'il a rendu célèbre par son livre écrit en 89, où il fait de cet assassinat, alors du coup je me suis renseignée sur la différence entre meurtre, crime, assassinat. Alors assassinat, c'est un crime prémédité. Donc, son livre est en 89, où il fait cet assassinat, le paradigme d'un parricide. Il tente, au nom de la psychanalyse, d'en faire prendre la responsabilité qui dit subjective à l'ortie. Le dit caporal, le 8 mai 1984, entre dans l'Assemblée nationale du Québec avec l'intention de tuer le gouvernement. Il justifie ainsi son crime, il fallait tuer le père. Tout à fait ce que Lacan appelle dans l'introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie, une conduite symbolique. Pierre Legendre va militer, le mot n'est pas trop fort, pour que l'auteur de cet assassinat soit reconnu responsable de son acte, avec, semble-t-il, une confusion entre être reconnu coupable et se reconnaître sujet de son acte. Or, l'éthique de la psychanalyse ne se plaque pas sur un sujet. On peut lui donner la possibilité de s'y confronter s'il avait ignorance, ce qui était le cas de l'ortie, et ensuite à lui de s'en emparer. L'ortie a-t-il lui-même demandé à être jugé comme responsable? Il semble que non. Il manque son témoignage, et selon l'analyse de Legendre, il semble qu'il demande surtout à être reconnu coupable, coupable de parricide par déplacement, si je puis dire. Mais à son interlocuteur de l'époque, il déclare seulement « Je ne peux pas dire, c'est pas moi, c'est moi ». Difficile de supposer le moindre assentiment de sa responsabilité, l'on sait qu'il se rangera plutôt sous la religion, devenant pieux à l'extrême, moyen infaillible d'attribuer la cause à un autre particulièrement consistant. Althusser, contrairement à mon patient, se sait coupable, mais ne se sent pas coupable. La culpabilité renvoie à un acte, réalisé ou non, la responsabilité à une position subjective. Il souligne dans ses entretiens à Sainte-Anne avec son analyste cette absence du sentiment de culpabilité. Je cite « Je tournais sans cesse avec lui, mais sans jamais me sentir coupable, autour de la raison profonde de mon meurtre. Tout son effort vise à sortir de cette position pour pouvoir reprendre une activité d'écriture publique, retrouver sa place d'énonciateur dans le champ culturel et politique qu'il a occupé pendant un demi-siècle. Nous sommes là dans un cas radicalement opposé à celui dont Freud parle dans l'article « Criminel par sentiment de culpabilité ». Le défaut de culpabilité, certes, peut signaler une absence de division chez un sujet dont la psychose est repérée depuis longtemps, par lui-même d'ailleurs, en contre. Ce qui n'empêche en rien ce sujet de se faire responsable. Je le cite « J'ai voulu à mon tour prendre enfin la parole à mon nom ». Responsabilité vient de responsus, qui veut dire pouvoir répondre à un engagement. Respondeo, c'est s'engager, d'où le sponsor. Le sponsor, c'est celui qui s'engage à soutenir un projet. Le responsable se soutient lui-même, à l'opposé des déclarations mettant la faute sur l'autre. On a parlé une séance de la position de canaille, ça serait une position de canaille, que même les comptines infantiles mettent en scène. Le fermier bat sa femme bat son enfant, l'enfant bat le chien, c'est toujours la faute de l'autre. La responsabilité, il n'y a pas que les enfants qui disent ça. La responsabilité suppose le devoir de faire passer une part de sa jouissance à un pouvoir dire son drame de sujet, hors de l'implication de l'autre, car de sa jouissance, seul le sujet peut répondre, et déjà si peu. La chute de ce livre, L'avenir dure longtemps, il s'appelle, témoigne, en tout cas, c'est ma lecture, d'une façon d'être responsable d'une position subjective, éthiquement orientée, avec la psychanalyse. Althusser passe du registre des faits à celui de son par-l'être, y compris pathologique, dont aucun autre ne peut être tenu pour responsable. C'est ce qu'il atteint après avoir exploré par le menu, si vous avez lu ou relisé le livre, vous verrez, le dossier remontant aux grands-parents, comme l'écrit Lacan, dossier qui possède chaque nouveau livre. Lacan a écrit dans les premières années de sa transcription plusieurs textes à propos de la criminalité. En 1933, dans la revue Le Minotaure, il commente le crime des sœurs Papin. Il relève alors que leur seul souci semble de partager entièrement la responsabilité du crime. De la responsabilité subjective, on ne sait rien. Lacan souligne la motivation paranoïaque dans un délire à deux, et l'on sait que Christine, l'aînée, ouvertement délirante, tentera de disculper sa jeune sœur. Puis en 1950, dans l'introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie, il affirme que la psychanalyse peut apporter des lumières à l'objectivation du crime et du criminel. Elle revendique, écrit-il, l'autonomie d'une expérience irréductiblement subjective, et si le crime est irréel, comme ce fut pour Althusser, le criminel, lui, n'est pas déshumanisé. La psychanalyse donne une entrée dans le monde imaginaire, voire délirant, du criminel. C'est ce que revendique Althusser, son délire est réel. Alors, je cite Lacan, « Il y a des crimes qui n'ont de sens que dans la structure fermée de la subjectivité. La guérison ne saurait être autre chose qu'une intégration par le sujet de sa responsabilité. » Dans ce qui est d'abord une communication où il s'intéresse essentiellement aux crimes motivés par les arguments d'un délire paranoïaque, justifié parfois par un acte de moralité, voire d'une vengeance salutaire pour tous. Cependant, on peut y lire le poids que Lacan met déjà sur le sujet, sur sa capacité de distance par rapport à son acte, et sur la clinique, l'accent qu'il met sur la clinique, les anomalies de structure, en opposition avec l'hypothèse dominante à l'époque de tendance criminelle constitutionnelle. C'était ça qu'on expliquait. De quoi donc la psychanalyse peut répondre en criminologie du sujet et du maintien de son humanité? C'est précisément parce que la vérité qu'elle recherche est la vérité d'un sujet qu'elle ne peut que maintenir la notion de responsabilité sans laquelle l'expérience humaine ne comporte aucun progrès. Ça, c'est une citation de Lacan, cette dernière phrase. Je trouve que c'est une définition précoce, en tout cas on peut le retrouver, de l'éthique de la psychanalyse. Je le cite à nouveau, « Si nous pouvons apporter une vérité d'une rigueur plus juste, nous le devons à la fonction privilégiée, celle du recours du sujet au sujet. Parce que la psychanalyse, par les instances qu'elle distingue dans l'individu moderne, peut éclairer les vacillations de la notion de responsabilité. » Alors pour conclure, à l'heure où le CRIF et l'école se penchent sur la place de la psychanalyse en général et de l'EPFCL en particulier dans la cité et dans les institutions aujourd'hui, il me semble que l'éthique de la psychanalyse pourrait nous aider à soutenir et à orienter notre acte face à tout sujet, juste ou vilain, comme dit la chanson. J'ai beaucoup aimé ce vilain, de toute façon j'aime bien les vilains. Sachant cependant que le juste est aussi vilain et le vilain tout aussi juste.